aquí. Gloire à Dieu, il me semble que ça fonctionne. Très bien. Eh bien, comme vous le savez, si ce n'est pas la toute première fois que vous nous rejoignez depuis environ 4 semaines, nous étudions dans la congrégation, dans le cadre de nos études bibliques, cette thématique qui s'intitule Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, plus précisément, ne serait-ce que pour commencer, dans le Nouveau Testament. Au début de la série d'études, particulièrement lors de la toute première séance sur cette thématique, j'ai eu à mentionner ce point fondamental que nous appelons la centralité du royaume, ou bien du royaume de Dieu, ou du royaume des cieux, dans le ministère du Christ. Dans le ministère du Christ, mais aussi dans la prédication, dans l'enseignement du Christ. Et à mesure que nous cheminions, nous avions regardé l'espérance du royaume, le royaume que Jésus proclame, relève d'une espérance. Dieu a promis un royaume, il y a des gens qui attendaient ce royaume. J'ai parlé aussi de la venue du royaume de Dieu, tel que le Christ l'a dit lui-même. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Non seulement nous avions parlé de la centralité du royaume dans l'enseignement du Christ, dans son ministère, et parlé de l'espérance du royaume, de la venue ou bien de la proximité du royaume, 3 points fondamentaux à saisir, à comprendre. À mesure que nous avancions dans l'étude, j'ai considéré avec vous aussi la manière dont Jésus s'y prenait pour annoncer le royaume. On voyait toute une variété de manières sur lesquelles je n'aurai pas besoin de revenir ce soir. Nous avions vu aussi le roi du royaume. Parler du royaume, c'est parler de l'existence d'un roi. Nous avions parlé du roi du royaume. Malheureusement, je ne me suis pas enregistré pour inviter des personnes à aller réécouter les enregistrements pour se rappeler le contenu de chacun de ces points-là que je viens d'énumérer, que nous avons déjà énuméré à plusieurs occasions. Mais voilà, nous devons encore continuer. J'ai aussi considéré avec la congrégation le temps du royaume. Le royaume de Dieu que Jésus proclame, est-ce que c'est un royaume pour maintenant par rapport à son temps, maintenant par rapport au moment où nous parlons, ou un royaume futur? Nous avions aussi répondu à cette question-là. Je crois que c'est mercredi dernier, si je ne m'abuse, qu'on a eu la grâce, le privilège de considérer la sphère du royaume, ou bien la visée du royaume, ou bien le territoire du royaume, où est-ce que ça se passe. Là aussi, nous avions partagé des considérations. J'ai considéré avec vous aussi mercredi dernier l'agent du royaume. Et aussi, nous avions considéré les demandes du royaume. Alors, ça nous donne au total 9 points, 9 éléments très important à comprendre si on veut comprendre la réalité du royaume que Jésus a proclamé ou tout simplement l'enseignement de Jésus à propos du royaume des cieux ou du royaume de Dieu. La centralité du royaume, l'espérance du royaume, la venue ou bien la proximité du royaume, la manière dont Jésus a proclamé le royaume, le roi du royaume, le temps du royaume, la sphère ou bien la visée du royaume, l'agent du royaume, les demandes du royaume, première partie. Et ce soir, nous allons considérer un autre élément tout aussi important. Ce qui est le peuple du royaume. Le peuple du royaume de Dieu ou bien la communauté du royaume de Dieu, la communauté du royaume des cieux. Le royaume a un roi, le royaume a une sphère d'action, le royaume a aussi un peuple. Le royaume de Dieu implique la création, la formation, l'établissement d'un peuple ou bien d'une communauté de foi, une communauté messianique centrée sur la personne, l'œuvre, l'enseignement et le ministère de Jésus-Christ. Pour parler du peuple du royaume de Dieu, ou bien de la communauté du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, il faut d'abord comprendre, savoir que le royaume de Dieu implique la création, la formation, les trois termes sont synonymes ici, et l'établissement d'un peuple ou alors d'une communauté. Un peuple de foi, une communauté de foi, un peuple messianique, une communauté messianique centrée sur la personne, l'œuvre, l'enseignement et le ministère de Jésus de Nazareth. Ce peuple, frères et sœurs, mes bien-aimés, cette communauté de foi, ou bien cette communauté messianique centrée sur Jésus, vous l'aurez compris, j'en ai glissé quelques mots au cours du déroulement de la série, n'est autre que l'Église. L'Église est le peuple du royaume de Dieu. L'Église est le peuple du royaume des cieux que Jésus a proclamé. Mais vous l'aurez compris, bien avant la fondation de ce peuple, bien avant la création de ce peuple, bien avant la formation et l'établissement officiel de ce peuple, dans Actes chapitre 1, le verset 8, le jour de la Pentecôte, ce peuple existait déjà en quelque sorte. C'est-à-dire que avant les actes des apôtres, nous voyons dans les évangiles que ceux qui répondaient à la proclamation du message de Jésus étaient devenus ses disciples. Ils ne s'appelaient pas l'Église, mais c'est de là qu'a commencé, c'est avec eux qu'a commencé le peuple du royaume. Et on pourrait même dire que le peuple du royaume a commencé avant eux, si on veut. Nous savons, vous et moi, frères et sœurs, que le terme de disciple désigne les 12 hommes que Jésus choisit pour l'accompagner dans son ministère terrestre. Mais nous savons tout aussi bien que ce terme fait référence à un groupe plus large de personnes qui marchaient avec Jésus. Par exemple, dans Luc chapitre 10, le verset 1er, l'Écriture parle des 70 disciples, ces hommes que Jésus a envoyés en mission. Ce n'étaient pas des 12, les 12, c'était 70. Et d'une manière plus large encore, donc déjà le peuple du royaume existait. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Avant le nom officiel de l'Église, qui est aujourd'hui le peuple du royaume, la communauté du royaume, il y avait déjà un peuple du royaume. Quand Jésus appelle chaque disciple à venir à lui, c'est le peuple du royaume qu'il est en train de former. Et d'une manière plus large encore, le terme de disciple désigne tous ceux et toutes celles qui accueillent favorablement l'enseignement et le message de Jésus par rapport au royaume. Jésus était accompagné non seulement des 12 disciples, cela dit, mais également il était accompagné de nombreuses autres personnes, des gens qui ont accueilli son message. Marc chapitre 4, verset 10 nous le montre. Luc 6, verset 17 nous montre cela également. Luc 19, verset 31 nous montre cela. Et le livre des Actes des Apôtres parle d'un nombre important de disciples qui suivaient Jésus. Lorsque nous voyons dans Marc chapitre 11, verset 13 à 14, dans Actes chapitre 11, verset 13 à 14, bien que la majorité des contemporains de Jésus n'ait pas fait un bon accueil du message de Jésus sur le royaume, ceux qui ont reçu ce message, ils ont constitué, bien avant, encore une fois, je le répète, la formation officielle de l'Église, le jour de la Pentecôte, ils constituaient déjà la communauté de croyants, c'est-à-dire le peuple de ce royaume que Jésus a proclamé. C'est cette première communauté renouvelée du vivant de Jésus, ce noyau de départ, ce noyau de base qui allait servir à la fois de point de départ et d'instrument pour ouvrir la voie à la fondation de l'Église sous une forme officielle telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ainsi, formée ou fondée après la mort et la résurrection de Jésus, l'Église est un produit du royaume. L'Église est un produit du royaume. L'Église est le résultat du royaume qui est venu. Et en même temps, l'Église est l'instrument du royaume à la suite du Christ. En plus d'être le peuple du royaume, la communauté messianique du royaume. L'Église n'est pas le royaume. L'Église n'est pas le royaume. J'ai déjà dit ça dans la congrégation, c'est dans d'autres circonstances. L'Église est le peuple du royaume. L'Église est l'instrument du royaume. L'Église est le produit du royaume. Est le résultat du royaume qui est venu. Gloire à Dieu. Quand Jésus est venu annoncer le royaume, Dieu régnait spécifiquement à travers Jésus. Dieu régnait spécifiquement à travers Jésus. Très important de comprendre cela. Et dans ce cas-là, Jésus était le peuple du royaume. Par son obéissance fidèle à Dieu le Père, il a vécu la vie du royaume en tant que peuple du royaume. Et à sa suite, ses disciples. À la suite de ses disciples, l'Église, depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui et au-delà. Mais depuis la Pentecôte, Dieu règne en Jésus-Christ dans l'Église. L'Église, comme fraternité de gens, rassemblée autour de Jésus-Christ, est devenue maintenant à la suite du Christ. L'agent du royaume, dans la puissance et la force du Saint-Esprit de Dieu, sous la seigneurie, sous la chefferie du Christ, qui est la tête de l'Église. Comprenez bien, nous avions parlé du Christ comme étant l'agent et l'instrument du royaume, alors qu'il proclamait le royaume, de toutes les manières dont nous l'avions regardé, et après la mort et la résurrection du Christ, il a envoyé le Saint-Esprit habiter son Église, fonder son Église, habiter son Église, et il règne maintenant à travers son Église, qui est le peuple du royaume, et à sa suite, l'Église, comme instrument du royaume, travaille au progrès du royaume, dans la puissance de l'Esprit. En résumé, l'Église est le peuple du royaume. Et l'Église est un produit du royaume. Et enfin, l'Église n'est pas le royaume. Très important de comprendre cela. Maintenant, nous passons à un deuxième point aussi important que les autres, que les 9 premiers autres points à comprendre. Nous allons maintenant, frères et sœurs, considérer un autre aspect très important de l'enseignement de Jésus sur le royaume. Jésus va nous parler maintenant de ce que nous comprenons qui est. C'est le dixième point, le dixième élément. L'éthique du royaume. L'éthique du royaume. Ou bien, le manifeste du royaume. Ou alors, la loi du royaume. La charte du royaume. Les principes du royaume. Les idéaux du royaume. Toutes ces mêmes affaires, toutes ces mêmes bagages. Moi, je dis plusieurs termes, c'est une façon capable de saisir de qui ça, moi, je voulais parler. Si on entend, peut-être, si un des termes vous serait moins familier, eh bien, l'autre va vous éclairer sur de quoi on parle. C'est pour ça que j'évoque plusieurs synonymes, plusieurs expressions synonymes. Jésus semble poser les principes de base de vie dans son royaume. Comment vit-on dans le royaume de Dieu, le royaume que Jésus proclame? Comment on vit là-dedans? Comment vit-on la vie du royaume? Plus précisément, comment doivent être les relations entre les citoyens du royaume et le roi du royaume, par exemple? Ou alors, comment doivent être les relations entre les citoyens du royaume et ceux de l'extérieur du royaume? Comment doivent être les relations entre les citoyens du royaume de lumière? Parce que, au demeurant, le royaume que Jésus proclame, c'est un royaume de lumière, c'est le royaume de lumière, par opposition au royaume des ténèbres. Comment vit le citoyen du royaume des cieux par rapport aux citoyens du royaume des ténèbres? Comment doivent être ses relations avec eux? Et finalement, comment doivent être les relations entre les citoyens du royaume, entre eux autres, entre vous et moi, ou entre moi et Ottawa, mettons là, entre vous et moi et Ottawa, par exemple? Il me semble que c'est de cela que Jésus nous parle dans Matthieu chapitre 5, les versets 7. Il me semble que Matthieu chapitre 5, c'est un grand discours d'un roi. C'est un manifeste, un discours où le roi du royaume établit les règles du jeu dans le royaume. Et puisque c'est dans ce passage qu'il le fait, il apporte des éléments de réponse à ces questions que nous venons de poser, que je viens de poser avec vous. La charte du royaume, l'éthique du royaume, les idéaux du royaume, les principes du royaume, le mode de vie dans le royaume. Matthieu 5 à 7 est très connu de l'Église. On l'appelle communément le sermon sur la montagne. C'est dans ce texte que Jésus établit les principes de base, les principes de fonctionnement dans le royaume de Dieu. Mais pour vous qui êtes familier avec ce texte, ces chapitres-là, 5, 6, 7 de Matthieu ou de l'Évangile selon saint Matthieu, Vous avez constaté sans doute qu'il y a une introduction. Avant que Jésus commence à dire, voici comment il faut prier notre Père qui est aux cieux, parce que ça aussi, ça fait partie de la charte du royaume, du manifeste du royaume. Quand Jésus dira, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Donc là, il va établir la loi du royaume. Mais avant ces choses-là, Jésus va commencer par une introduction. Au chapitre 5, les versets 1 à 12. Il va commencer par une introduction au chapitre 5, versets 1 à 12. Ce passage bien connu qu'on appelle les béatitudes. C'est par ça qu'il commence. Mais même les béatitudes constituent aussi des éléments de principes du royaume, en quelque sorte. Je vais suivre, on va commencer ce soir si Dieu veut, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de terminer, mais je vais suivre la même démarche que Jésus. C'est-à-dire que je vais commencer par étudier avec vous à travers le point qui s'appelle à travers le point qui s'appelle l'éthique du royaume, nous allons commencer avec les béatitudes. Pourquoi? Parce que les béatitudes constituent l'introduction du discours de Jésus, l'introduction de la charte ou du manifeste du royaume. N'oubliez pas cela. Et ce qu'on voit dans Matthieu 5, versets 1 à 12, mais particulièrement 3 à 12, ce qu'on voit, c'est que Jésus commence par une description ou bien une présentation des citoyens du royaume. Vous l'avez sans doute remarqué dans vos lectures personnelles. Jésus commence par décrire, ou bien par définir, ou bien par présenter, ou bien comment, il commence par dire comment il voit, comment Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit voit les citoyens du royaume. Quel est leur statut? Disons tout d'abord, frères et sœurs, pour commencer, que le mot béatitude fait référence à un état de bonheur ou de félicité. Jésus va, on est vraiment en plein dans des béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonheurs, heureux ceux qui ont faim, heureux les miséricordieux, heureux. Au total, environ quoi? 9 heureux. Donc, on est dans les béatitudes, on est dans de pleines béatitudes, bien important. Et le sens le plus large, mais bien aimé, du terme béatitude se rapporte au contentement intérieur, à la joie intérieure. Un contentement, une joie qui ne sont pas affectées par les circonstances. C'est ce genre de bonheur, frères et sœurs, que Dieu désire pour ses enfants. Un état de joie et de bien-être qui ne dépend pas des circonstances physiques et temporaires de la vie, même si ces circonstances-là peuvent contribuer à cette joie, à ce bonheur-là. On le sait. Nous ne voulons pas être déconnectés de la réalité. Dans les béatitudes, frères et sœurs, Jésus présente, Jésus parle de la possibilité que les gens soient réellement heureux dans le royaume des cieux ou alors dans le royaume de Dieu, tel que vous et moi nous le sommes en ce moment. C'est ainsi que le mot « heureux » est utilisé 9 fois dans le passage en question. La béatitude est une caractéristique de Dieu. La félicité est une caractéristique de Dieu. La joie est une caractéristique de Dieu. Et en même temps, la béatitude peut caractériser les hommes à la condition que les hommes participent à la nature de Dieu. À condition que les hommes participent à la vie de Dieu. À condition que les hommes fassent partie du royaume de Dieu. Car il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de contentement comme ceux dont Jésus parle ici-bas, sinon par une relation personnelle avec Jésus lui-même comme étant le roi du royaume. L'apôtre Paul parle de l'évangile de la gloire de Dieu bienheureux, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 11. Il parle aussi de Jésus-Christ, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, dans 1 Timothée 6, le verset 15. Autant dire que la béatitude, c'est un élément fondamental du caractère de Dieu. En sorte que, quand les hommes participent à la nature de Dieu par Jésus-Christ, quand les hommes deviennent citoyens du royaume de Dieu par Jésus-Christ, ils participent à la béatitude du Christ, ils participent à la béatitude de Dieu. Dès le début du sermon sur la montagne, Jésus parle d'une réalité qui concerne uniquement les citoyens du royaume. Les autres, y compris la foule, peuvent voir les bénédictions du royaume, ils peuvent avoir un aperçu des bénédictions du royaume, mais la promesse de recevoir et d'expérimenter les bénédictions du royaume est réservée uniquement aux citoyens du royaume, frères et sœurs. En plus de présenter les citoyens du royaume comme étant des gens heureux, Jésus présente ou bien décrit les citoyens du royaume comme étant des gens humbles, des gens compatissants, des gens doux, des gens recherchant la justice, des gens miséricordieux, des gens ayant le cœur pur. Il les présente aussi comme étant des gens, des artisans de paix et des gens qui peuvent être à l'occasion ou bien systématiquement persécutés au nom de la justice même qu'ils pratiquent. Je cite, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, Matthieu chapitre 5, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ce sont toutes des caractéristiques des citoyens du royaume. Ils sont des pauvres en esprit, ils sont des affligés, ils sont des débonnaires, ils sont ceux qui ont faim et soif de la justice, ils sont ceux qui sont miséricordieux, ils sont ceux qui ont le cœur pur, ils sont ceux qui procurent la paix, ils sont ceux qui sont persécutés pour la justice. C'est le regard que Jésus pose sur les citoyens du royaume, frères et sœurs. Aux yeux du monde, vous aurez remarqué que des qualités comme ça, miséricordieux, pauvre en esprit, quoi d'autre, débonnaire, des qualités comme ça, des caractéristiques comme ça, frères et sœurs, suivant la philosophie du monde, ces caractéristiques, ces qualités, ces traits de caractère caractérisent les perdants. Ainsi, vous l'aurez peut-être remarqué autour de vous, le monde encourage les hommes et les femmes à s'affirmer. Pas d'affaire de débonnaire. Le monde encourage les hommes à se défendre. Le monde encourage les hommes à se venger. Le monde encourage les hommes à se servir. Le monde encourage les hommes à se glorifier. Le monde encourage les hommes à être fiers d'eux et d'elles. Ce sont autant de valeurs fondamentales qui caractérisent la vie du monde, la vie dans le royaume des ténèbres. Ce sont là les traits de caractère que chérit le monde. Mais dans le royaume de Dieu, on s'aperçoit, à la lumière du sermon sur la montagne, qui est le texte consacré au manifeste du royaume, on voit que c'est tout le contraire. Le Christ dira dans Matthieu chapitre 11, le verset 11, que dans le royaume, lui, même les plus petits sont plus grands que Jean. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Très important. Je vais dire quelque chose, après je vais fermer la parenthèse tout de suite. Quand j'en aurai besoin pour pour des raisons de compréhension, je reviendrai là-dessus, comme j'ai l'habitude de le faire par la grâce du Seigneur. Quand le texte dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui, l'auditoire de Jésus est composé de deux catégories de gens, la foule et les disciples de Jésus. Vous aurez besoin de ça à mesure qu'on va avancer dans l'étude, en tout cas du sermon sur la montagne. Mais pour aujourd'hui, quand j'arriverai là, je vous dirai, vous vous rappelez que je vous avais dit que l'auditoire de Jésus est composé de deux catégories de gens, la foule et ses disciples. Donc, ici, il y a deux catégories de gens pour lesquels Jésus va parler. Le sermon sur la montagne, c'est un sermon pour ceux qui sont dans le royaume et ceux qui sont en dehors du royaume. On ferme la parenthèse. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi ils sont heureux? Ils sont heureux parce que le royaume des cieux leur appartient. On peut entrer dans le royaume, mais le royaume peut nous appartenir. Le royaume peut être un don. Avoir le don du royaume. Et c'est bien important de commencer à comprendre ces termes-là. Être pauvre en esprit, qui sont-ils? Les citoyens du royaume sont des pauvres en esprit au dire du Christ. C'est-à-dire que ce sont des gens qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle en dehors de Dieu, sans Dieu. Être pauvre en esprit, c'est se voir tel qu'on est. C'est comment on est sans Christ. On est perdu, on est désespéré, on est impuissant. Sans Jésus, toute personne est indigente spirituellement, quelle que soit son instruction, quelle que soit sa richesse, quel que soit son statut social, quelles que soient ses réalisations personnelles, quelle que soit sa connaissance théologique, sans Jésus, toute personne est indigente. Eh bien, le pauvre en esprit, c'est celui qui reconnaît cela. C'est celui qui comprend cela. C'est celui qui se voit comme cela. C'est celui qui voit sa vie comme cela en dehors du Christ, qui a un juste regard sur lui-même. Les pauvres en esprit sont ceux qui reconnaissent leur dépendance à l'égard de Dieu. Pour être citoyen du royaume de Dieu, eh bien, il faut être pauvre en esprit. Et quand on devient citoyen du royaume de Dieu, on est pauvre en esprit. On croit, on grandit dans la pauvreté spirituelle, dans le sens où on continue de reconnaître que sans Dieu, on ne peut rien. Sans Dieu, on n'est rien. On comprend toujours la nécessité de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu. Les pauvres en esprit, ce sont ceux qui comprennent qu'ils ne possèdent en eux-mêmes aucune ressource pour se sauver eux-mêmes et que par conséquent, ils ne peuvent que s'en remettre à la miséricorde et à la grâce de Dieu pour leur salut. Voilà le sens de l'expression pauvre en esprit. Et voilà pourquoi ils sont heureux, les pauvres en esprit. Les citoyens du royaume sont ceux qui savent qu'ils n'ont aucun mérite spirituel. Les citoyens du royaume sont pauvres en esprit parce que leur orgueil a disparu, leur autosuffisance a disparu, parce qu'ils comprennent la nécessité de se tenir les mains vides devant Dieu. Un auteur a dit, la porte du royaume est basse et nul ne peut y passer sans se courber, sans se baisser. Il me semble que ça définit bien la pauvreté spirituelle des citoyens du royaume comme étant des pauvres en esprit. Dans le royaume de Dieu, on ne peut être rempli tant qu'on n'est pas vide. On ne peut être rendu digne tant qu'on ne reconnaît pas son indignité. On ne peut vivre dans le royaume de Dieu tant qu'on n'est pas mort. Et maintenant, on aurait pu dire davantage du sens, du contenu de pauvre en esprit, mais vous allez en trouver dans vos recherches. Passons maintenant à pourquoi sont-ils heureux tout en étant pauvres en esprit? Je l'ai dit, ils sont heureux parce que le royaume des cieux est à eux, parce que le royaume des cieux leur appartient, parce qu'ils héritent le royaume des cieux. Ceux qui viennent humblement au roi du royaume, ceux qui accueillent favorablement le message du royaume, et par conséquent le messager du royaume, donc le royaume lui-même, Ceux qui se confient dans le roi du royaume, ils ont le royaume en héritage. Et par conséquent, Jésus de Nazareth dit qu'ils sont des gens bienheureux. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Vous êtes des gens bienheureux parce que vous êtes des citoyens et des citoyennes du royaume. Quand le Seigneur a appelé Gédéon à délivrer Israël des Madianites, Gédéon lui a répondu, vous connaissez la fameuse réponse de Gédéon, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » La réplique du Seigneur, vous vous rappelez, c'était quoi? Dans Juges chapitre 6, versets 15 à 16, le Seigneur lui a dit, « Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Autrement dit, Manassé a confessé à un juste regard sur lui-même. Il a confessé sa petitesse. Il a confessé son indignité. Il a confessé ses limites quant à lui-même. Et cela lui a valu d'être rempli de la force du Dieu Tout-Puissant et trois fois saint. Quand Ésaïe vit le Seigneur assis sur un trône très élevé, vous vous rappelez, en Ésaïe 6, versets 1 à 7, Ésaïe s'est écrié, « Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Et qu'avons-nous vu? L'Écriture nous apprend qu'un séraphin a touché la bouche du prophète avec une pierre ardente en disant, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » C'est très formateur pour vous et moi, frères et sœurs. Et ça, j'évoque ces passages de l'Ancien Testament pour vous montrer que à chaque fois que des hommes et des femmes ont su reconnaître leur petitesse, leur indignité, leur faiblesse, leur incapacité à se débrouiller par soi-même, Dieu leur fait toujours la grâce. Autant dire que ceux qui s'approchent du Seigneur avec le cœur brisé ne repartent jamais les mains vides, ou alors ne repartent jamais avec le cœur brisé. Ceux qui s'approchent du Seigneur le cœur brisé ne repartent jamais avec le cœur brisé. Car ainsi parle le Très-Haut, dit la parole dans Ésaïe 57, verset 15, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Dieu veut, frères et sœurs, que vous et moi, nous reconnaissions notre pauvreté spirituelle afin de nous enrichir. Comprenez bien. Pour avoir le salut, c'est ce qui doit arriver. Pour avoir part au royaume de Dieu, c'est ce qui doit arriver. Mais étant dans le royaume, la vie du citoyen du royaume doit continuer d'être comme ça. La vie du citoyen du royaume doit continuer à rechercher l'humilité, à rechercher ces choses, à rechercher cet état d'esprit, cet état de dépendance, cet état de conscience que sans l'aide du Seigneur, il ne peut rien faire, il ne peut rien accomplir, il ne peut pas plaire à Dieu, il ne peut pas être rempli des bienfaits de Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés. Dieu veut que nous reconnaissions notre bassesse. C'est notre bassesse que nous avons reconnue qui fait que nous avons eu part au royaume de Dieu. Pour avoir accepté le message du royaume, il a fallu reconnaître que le roi du royaume est le seul pouvant nous sauver. Comprenez bien ce qui se passe ici. Nous avons eu à le faire et nous sommes appelés à continuer à le faire étant dans le royaume. Et c'est pour l'avoir fait que nous sommes dans le royaume. Pas par mérite, pas en termes de mérite personnel. Non, ce n'est pas en termes de mérite personnel. Mais celui qui s'approche du Christ pour avoir son salut, c'est dans cet état d'esprit qu'il est supposé s'avancer. C'est ce qui s'est passé dans votre cas. C'est ce qui s'est passé dans mon cas. Dans le cas de chaque chrétien, c'est ce qui s'est passé. Mais à mesure que nous cheminons dans le royaume, eh bien, nous avons besoin de continuer de refléter, eh bien, cette même et ce même état d'esprit, cette même attitude à l'égard du Dieu éternellement tout-puissant et trois fois saint, frères et sœurs. Dans Jacques chapitre 4, verset 10, Jacques écrira, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » En renonçant à leur propre royaume, les pauvres en esprit, les citoyens du royaume, dont vous et moi, nous héritons du royaume de Dieu, frères et sœurs. Dieu nous dit que nous sommes heureux. Dans la mesure où Dieu, eh bien, Dieu nous est favorable. Hein? C'est ça la clé du bonheur. C'est le fait que Dieu nous est favorable. C'est le fait que nous avons l'approbation de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça qui définit le bonheur et en quelque sorte du citoyen du royaume. Dieu nous approuve en Jésus-Christ. Il nous est favorable. Nous avons reconnu notre petitesse, notre misère, notre bassesse, notre incapacité. Nous avons renoncé à notre suffisance. Et alors, il dit, en faisant cela, vous aurez noté, le royaume des cieux est à eux. C'est là, c'est dans le présent. Bien sûr, il y aura cela, puis j'expliquerai si Dieu veut, mais c'est ici-bas même, le royaume des cieux est à eux. Le royaume de Dieu est à eux. Ici et maintenant, nous pouvons faire l'expérience de la vie du royaume, de la possession du royaume et de l'appartenance au royaume. C'est du moins ce que Jésus a laissé comprendre, frères et sœurs. Nous sommes heureux parce que Dieu est de notre côté. Les citoyens du royaume sont heureux parce que non seulement Dieu est de leur côté, mais Dieu est à leur côté. Ainsi, ils sont heureux dans le royaume de Dieu. Verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Le premier verbe être est au présent au verset 3, quand le royaume des cieux est à eux. Et au verset 4, il est écrit, car ils seront consolés. Nous y arrivons. Le monde dit qu'on est heureux quand les choses vont comme nous le voulons. Quand les choses vont, évoluent comme nous le souhaitons. Suivant la pensée du monde, le bonheur passe, entre autres, par le plaisir, par l'argent, par les divertissements, par la gloire, par la célébrité, par les éloges, par les expressions de soi, par l'affirmation de soi, et j'en passe. Toujours est-il, voir combien le royaume du monde et le royaume de Dieu sont opposés. Pour le monde, le bonheur repose sur l'absence de souffrance, sur l'absence de difficulté, sur l'absence de déception, sur l'absence de frustration, sur l'absence d'épreuves et d'autres problèmes encore. En un mot, pour le monde, les choses favorables engendrent ou bien amènent le bonheur, tandis que les choses défavorables engendrent le malheur pour le monde. Mais suivant le manifeste du royaume, suivant la charte du royaume, suivant l'enseignement du royaume, suivant l'éthique du royaume, les choses ne se passent pas nécessairement comme cela. Même si ça inclut ça aussi. Mais ce n'est pas juste ça. Encore une fois, la vision du royaume, les idéaux du royaume sont complètement opposés à la vision du monde ou aux idéaux du monde. Et c'est normal. Nous devons l'assumer en tant que citoyens du royaume. Ça ne peut pas être pareil. Dans le royaume de Dieu, ce sont les affligés qui sont heureux, autrement dit. Ce sont les affligés qui sont heureux. Ainsi, le Christ dira, dans Luc chapitre 6, verset 25, « Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. » Bien entendu, il faut comprendre les termes. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Nous y arrivons. Ce qu'on voit ici, c'est que Jésus renverse les idéaux du monde. Jésus renverse les principes du monde. Jésus est à contre-courant des principes du monde, de ce que le monde valorise, de ce qui fait du sens pour le monde. Jésus en prend le contre-pied. Et c'est ça qui est ça. Jésus renverse le chemin qui mène au bonheur dans la conception du royaume des ténèbres, dans la conception du monde des choses. Jésus remet les pendules à l'heure. C'est pour ça qu'on appelle ce passage le manifeste du royaume. Oui, où est l'intérêt, le manifeste là, où est-il? Jésus remet les pendules à l'heure. Il redéfinit la conception ou bien le principe du bonheur tel que le monde l'a enseigné. Il redéfinit les valeurs du royaume. Ainsi, les citoyens du royaume savent à quoi s'attendre. Les citoyens du royaume reconnaissent les attentes de Dieu à leur égard. Ce n'est pas sans raison que c'est après avoir proclamé le royaume que le Christ commence à définir les règles du jeu du royaume. C'est le premier et le plus grand discours du Christ sur le royaume. Parce que maintenant, le moment est venu. Il l'a proclamé, maintenant il commence à fixer les règles du jeu pour ceux qui sont rentrés déjà là-dedans et pour ceux qui seront ultérieurement rentrés là-dedans, dont vous et moi. C'est ça qu'il faut comprendre aussi dans cette démarche. Le Seigneur se soucie de toutes les afflictions des humains, c'est-à-dire en particulier de ses enfants. Il s'en soucie. Et à preuve, il nous promet de nous consoler. Il est appelé le Dieu de toute consolation. Il nous promet de nous réconforter. Il nous promet de nous fortifier, frères et sœurs. Nous, particulièrement les citoyens du royaume, lorsque nous nous tournons vers lui pour obtenir de l'aide, pour obtenir du secours, pour obtenir du soutien, frères et sœurs. Mais laissez-moi vous dire que Jésus parle d'une autre forme d'affliction ici. Mes afflictions que me causent mes problèmes, mes tracas, mes difficultés, mes souffrances, mes douleurs, il s'en charge déjà. Il s'en est chargé à la croix. Il continuera de s'en charger. Il continuera de s'occuper de mes manques, de mes privations, de mes besoins. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas ce genre d'affliction qu'il a en vue ici. J'avais promis qu'on clarifierait les termes. Sinon, il ne dirait pas « Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. » Mais non. Mais non, le Christ ne peut pas s'opposer au rire de ses enfants, à la joie de ses enfants. Donc, il parle d'autre chose ici. Si du rire, il parle d'autre chose, mais de l'affliction, il parle d'autre chose aussi. Il faut interpréter. Dieu n'est pas contre le sens de l'humour. Dieu n'est pas contre l'humour. Dieu n'est pas contre le rire. Comment se fait-il qu'il dit « À vous qui riez maintenant, malheur à vous qui riez maintenant. » Pourquoi? Ben, il parle de notre rire. Et mais de la même manière qu'il parle de notre rire, il parle de notre rire, de notre deuil, de notre larme, mais aussi quand il parle d'affligés, heureux les affligés, mais ce n'est pas affligé que moi à vos connaissances. Même si affligé moi à vos connaissances, lui prend en charge aussi. Ça se compte lui aussi. Lui consoler mon par rapport à affliction, ça vraiment aussi. Une affliction, c'est une tristesse. Ou alors, l'affliction, c'est la tristesse. Et la tristesse, ici, c'est la tristesse selon Dieu. L'affliction, c'est l'affliction selon Dieu. Une affliction que seul celui ou celle qui appartient à Dieu, qui est membre du royaume du Christ, peut éprouver. C'est cette affliction qu'il a éprouvée pour venir à Christ. Et pendant même qu'il est dans le royaume, il lui arrive d'avoir ce genre d'affliction quand il regarde le péché autour de lui, ou peut-être quand il a un péché dans sa vie, Parce que tout en étant dans le royaume, il peut avoir un péché dans sa vie. Le Christ l'appelle, l'encourage. Lui qui a déjà pleuré sur, par rapport à ses afflictions, le Christ l'encourage à continuer à pleurer chaque fois qu'il doit pleurer. Parce que c'est de cette façon-là qu'il sera consolé. S'il rit, s'il minimise ses péchés, ses iniquités, ses défaites, il sera toujours dans les larmes. Parce que quand il les minimise, il rit, il en prend plaisir. Il ne s'en formalise pas, il n'est pas attristé. Je le dirai mercredi prochain, Dieu voulant, si Dieu me prête vie. Mais je ne veux pas vous laisser sur votre soif. L'affliction ici, c'est l'affliction selon Dieu. C'est le croyant qui est conscient de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu, et qui regarde le péché autour de lui, ou peut-être dans sa vie, le cas échéant, et puis qui en est triste, qui pleure, et qui confesse ses péchés, qui s'en remet à Dieu pour la délivrance, pour le pardon de ses péchés. Nous y reviendrons mercredi prochain, Dieu voulant. Ne pas oublier que me dérivé dans verset 4. Est-ce qu'il y a des questions avant de remettre Frère Edier? Avez-vous des questions avant que je remette l'antenne à Frère Edier? Ben ok, créole parler, je comprends. Eh bien, merci de votre écoute, merci de m'avoir subi pendant quoi, à peu près une heure. Gloire à notre Dieu. Et merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.
Saint Jésus.